Alors bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
On va essayer de réfléchir un petit peu sur ce thème du respect à partir d'un Tosfot. C'est marqué dans Tosfot dans Sota d'Afioud. C'est marqué là-bas. Makshe lama lo nimna albanat pedechavero bemizvat shesayit limser nafsho aleihem. Vous savez que il y a une faute très grave de faire honte à quelqu'un en public, de faire blanchir le visage de quelqu'un. Et le Tosfot pose la question, il dit comment ça se fait qu'on n'a pas compté cette faute-là, parmi les fautes sur lesquelles il vaut mieux mourir que de les faire. Normalement, quelqu'un, si on lui dit de faire Avodah Zarah, ouais, ou de faire une chose de débauche, alors il doit mourir plutôt que de faire, ou de transgresser Shabbat. Mais Tosfot il demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté ça dedans. Parmi les mitzvot sur lesquelles il vaut mieux mourir que de transgresser, pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté la mitzvah de Malbin Pénéchavir ou Barabim? Alors il demande les commentaires, il demande mais pourquoi? Alors il répond Tosfot pourquoi? Parce que, en fait, cette mitzvah n'a pas été écrite explicitement dans la Torah. C'est pas marqué clairement, cette mitzvah-là. Donc c'est pour ça que, sous-entendu, tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Mais si ça avait été écrit explicitement dans la Torah, et on n'apprend que par remez, on n'apprend que par allusion. Mais si ça avait été écrit clairement, alors n'importe qui, il aurait mieux valu qu'il se jette dans un fourneau, qu'il se tue, ouais, plutôt que de faire honte. Maintenant, on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis le fait d'éviter de faire honte à quelqu'un à un tel niveau. Parce que dans le fait de faire honte, il y a deux choses. Il y a le fait que, activement, je fais honte à quelqu'un, et il y a le fait aussi que je lui manque de kavod, je ne donne pas le respect qui serait dû à la personne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça montre que le manque de kavod, dans le sens d'une agression à quelqu'un, le manque de respect, c'est placé à un tel niveau. Ça veut dire que le kavod de la personne, il est placé à un tel niveau. Alors jusqu'à quel point est-ce que la Torah, elle a placé le fait que moi je dois respecter quelqu'un, je dois lui donner sa place, pour dire que si quelqu'un était obligé, entre guillemets, de manquer de kavod à quelqu'un, il vaudrait mieux qu'il meure. Il vaut mieux qu'il se laisse tuer que de manquer de respect à quelqu'un. C'est bizarre. Alors il y a une Gemara dans la Mishnah d'Afnun Chet, là-bas elle dit comme ça, Kishem shu ona'a bemekach umemkach, kach ona'a dvarim. Vous savez qu'il y a un dîme de ona'a, il y a une halakha, que si quelqu'un il va vendre quelque chose, alors il ne peut pas vendre plus qu'à un certain prix. Comme il existe ribit, quand je prête à quelqu'un de l'argent, alors il ne peut pas me rembourser avec un intérêt. De la même manière, dans la vente aussi, il y a un certain pourcentage qui doit être respecté, qui s'appelle ona'a. Maintenant la Gemara dit, de la même manière qu'il y a un pourcentage à respecter dans le mekar ou mekar dans le business, il y a aussi, entre guillemets, une ona'a dans les paroles. C'est quoi la ona'a dans les paroles? Alors, il va donner des exemples. Par exemple, lo yomar bekama chafet ze ve'u eno rotselika. Tu ne peux pas rentrer dans un magasin et dire combien ça coûte si tu ne peux pas acheter. Oui, des fois il pleut, tu ne sais pas où aller, tu rentres dans le magasin. La vendeuse te dit oui, alors tu rentres, tu dis bon, tu demandes combien ça coûte. Oui, mais en réalité, tu ne peux pas acheter. Tu n'as pas le droit de faire ça, ça s'appelle ona'a dvarim. Bon. Après, il dit, Imaya Baal Teshuva, si quelqu'un il a fait Teshuva, c'est quelqu'un qui a eu des écarts dans sa vie, il a fait des grosses bêtises, et maintenant, Hashem il est revenu à la Torah. Lo yomar lo zachor ma'asecha rishonim. C'est interdit de lui dire, rappelle-toi tes actions d'avant. Toi, tu l'as connu quand il était un voyou, tu l'as connu à Ibiza, là-bas, dans les boîtes de nuit, et maintenant, tu le vois à Hassiz, là-bas, en Eretz Israël, en train d'étudier la Torah. T'as pas le droit de lui dire, oh, tu te rappelles Kevin? Il dit, non, Hazu Shalom, maintenant, c'est Mordechai. Ah bon, d'accord, ouais. C'est un sourd. Pas d'un autre côté, pourquoi? Pourquoi je vais vous... qu'est-ce qu'il y a de mal? De toute façon, il est passé par là, c'est son passé. Pourquoi je vais pas vous dire ça? Après, la continue, il dit, Im ou Ben Gerim, si c'est un enfant de converti, ou lui-même il est converti, Lo Yomam Ozachom Asecha Avotecha, c'est interdit de lui dire, rappelle-toi, les actions de tes pères. C'est-à-dire, n'oublie pas que tu es un converti, n'oublie pas que tu étais un goy, n'oublie pas que... C'est un sourd. Mais c'est quoi le point commun qui existe entre ces trois, oui? Une personne, je vais lui dire, je vais lui rappeler qu'elle a fait Teshuva, un autre, je vais lui rappeler qu'elle était goy, qu'elle était goya avant, ouais, un autre, je vais rentrer dans le magasin et je vais dire, je vais acheter, en fin de compte, je ne vais pas acheter. C'est quoi le lien? Et ça s'appelle ona'at varim. Sous-entendu, c'est si on dit que par rapport à l'argent, ça veut dire que j'ai vendu plus cher que ce que ça valait, là aussi, c'est les mots que j'ai dit en trop. Faire très très attention quand on parle, ouais, de tous les mots qu'on dit en trop. Parce que les mots qu'on dit en trop, en réalité, c'est souvent ceux qui nous amènent des problèmes. De faire attention de parler quand on a besoin de parler et de ne dire que des choses qu'on a besoin de dire et que de dire que des choses qu'on pense vraiment. Maintenant, des choses qu'on sait qu'on va les regretter, il vaut mieux se taire. Parce qu'il y a un proverbe comme ça, on dit, on regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit. Les mots que tu as dit, tu vas les regretter. Les mots que tu n'as pas dit, tu ne les regrettes pas. Maintenant, ça sous-entend que déjà la personne à la fin travaille sur elle-même d'être capable de maîtriser sa bouche. Parce qu'il y a des gens qui confondent parler et respirer. Des gens qui confondent réagir, ouais, et réfléchir. Non, si la personne, elle va parler, elle va dire quelque chose. Ça veut dire que ça a été pensé, ça a été conçu. Elle sait qu'il y a un impact qui va être positif ou qui va être négatif. Et s'il est négatif, elle est prête à l'assumer. Mais c'est pas que ça sort comme ça et après, ah, j'ai trop parlé, ah, ça c'était le mot de trop, ça c'était l'injure de trop, ça c'était... En fin de compte, tous ces mots-là qui détruisent la vie de chacun, simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été maîtrisés dans leur expression. Après, un peu plus bas, dans la même Gemara, c'est marqué « Akol yordim le geinam veronim » Il y a tout le monde descend en enfer et remonte. « Chutz mishlosha » sauf trois, « chez yordim veronim » qui descendent mais qui ne remontent pas. Alors, Tosfot, il précise qu'il ne remonte pas tout de suite. Il dit, qui ça? Aval et Shetish, celui qui va avec une femme mariée. Ve Amalbin Penechavero Barabim, celui qui fait honte à son ami en public. Ve Amechane Shemra la Chavero, et celui qui va donner un surnom moqueur à quelqu'un. Quelqu'un, il s'appelle David, voilà, il l'appelle le doudou, il l'appelle le gros, il l'appelle le lourd, il l'appelle le tunisien, il l'appelle le tripolitain, ouais, chacun il trouve des mots, ouais. Ce petit mot-là, ce petit mot, tu dis, oh, c'est rien, c'est une façon de parler. Maintenant, tout le monde dit, oh, c'est pas grave, il n'y a pas de mauvais esprit. Mais le gars, depuis qu'il est petit, on l'appelle le gros. Ouais. Maintenant, il a 38 ans. Même maintenant qu'il a maigri, qu'il a perdu 23 kilos, qu'il a fait 4 opérations, on continue à l'appeler le gros. Donc le gars, il a vraiment la honte, la chouma. Ouais. Mais on l'appelle comme ça. Alors regardez ce qu'il dit Rashi. La Gemara, elle dit, mais je ne comprends pas. Tu dis, celui qui va avec une femme mariée, celui qui fait honte en public et celui qui donne un surnom moqueur. La Gemara a dit, mais Mehane, Aïnou Balbin. Mais quelle différence entre donner un surnom moqueur, ouais, et faire honte? C'est la même chose, parce que quand tu donnes le surnom, ça fait honte, c'est pareil. Alors la Gemara a dit un chidouche incroyable, elle dit, Afalgar des Dash Bebishme. Ouais, malgré que lui-même il piétine, ce Rachid explique, Gvaro Gal Bekar, bien qu'il est déjà habitué qu'on l'appelle le bouffon, qu'on l'appelle le gros, ouais. Chez Mechani Motoken, il a l'habitude qu'on le surnomme comme ça, Ve'en Panam Mitlavnot, et sa face ne blanchit pas. Quand il était jeune, on voyait qu'il avait honte, mais maintenant ça ne se voit pas. Sans entendu, il a pris sur lui, il préfère attraper un cancer que de montrer aux autres qu'il n'est pas bien. Ou Mikol Makom, Ze Leachlim Mitkaven. Donc lui, ça ne se voit pas sur sa tête qu'il a mal pris. Mais l'autre qui parle, il le fait pour lui faire du mal. Alors si c'est vraiment il fait ça, ça fait partie des gens qui vont au Gehinam et qui ne remontent pas tout de suite. Alors tu poses la question, tu dis, mais je comprends pas, tu mets sur un même plan celui qui va avec une femme mariée, avec celui qui fait honte à son ami. Celui-là, il est avec une femme mariée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, lui, ça n'est jamais, il a pris un coup, il va payer très fort dans ce monde. À part ça, il a détruit une famille, il a détruit des enfants, il a détruit les parents, d'accord? Mais là, il a détruit l'autre famille aussi, les familles du mari. Il a détruit aussi la famille, les beaux-parents aussi du côté du mari. Tout le monde est scandalisé, tout le monde est horrifié, tout le monde est choqué, tout le monde est cassé. Après, même dans le futur, parce que les enfants qui savent que leur maman ou leur papa, il a fait une chose pareille, eux aussi, ils sont choqués, eux aussi, ils ont une idée de l'adulte, de tordu et bizarre. Donc tout ça, c'est celui qui va avec une femme mariée. Donc tu comprends que c'est quelque chose de très très grave. Et qu'est-ce que tu mets à côté? Celui qui fait honte en public. Mais quel rapport? Non, maman. Ça c'est bon, j'ai rigolé avec quelqu'un, je me suis moqué de lui, je me suis levé à ma gueule, j'ai dit toi ferme là, tais-toi, qui tu es, ou j'ai dit à quelqu'un, mais combien tu gagnes, de toute façon t'es un pauvre, t'es un truc, je te fais honte en public. Bon, mais tu compares ça avec la femme mariée, et après, les deux, tu les compares avec celui qui va donner un surnom moqueur. Bon, toi, c'est quand même un peu plus léger, pourquoi tu les mets tous sur un même plan? Qu'est-ce qui les rejoint, et qu'est-ce qui les met en lien? En vérité, ce qui les relie, c'est le kavod. C'est-à-dire quoi? C'est le respect qui est dû à la personne. Maintenant, quand on réfléchit, c'est quoi le kavod? Ouais. C'est quoi le kavod de quelqu'un? Par exemple, là, moi je parle, vous me faites kavod, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous me laissez exister, vous me laissez parler. Le kavod, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a créé un monde, oui, où il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, normalement, vous devez exister et moi je dois exister. Alors, ce qu'on appelle dans un rapport de coexistence, le fait de donner à l'autre la priorité existentielle, ça s'appelle le kavod. Je donne le droit d'exister à quelqu'un. Comme le maître, ouais, il va donner le droit d'exister à l'élève. Et l'élève, il va donner le droit d'exister au maître. Maintenant, l'élève, il veut apprendre du maître. Alors, il fait kavod au maître. Donc, il lui donne le droit d'exister. Après, le maître, il doit aider l'enfant à exister. Donc il va lui faire le kavod. Donc l'enfant, il va avoir confiance en lui, il va être bien, il va être fort, il va réussir. Maintenant, si l'élève manque de respect au professeur, il ne va pas apprendre du professeur. Et si le professeur, il casse l'élève ne va jamais grandir. Donc le kavod, c'est des deux côtés. Chacun a besoin. Donc l'élève a besoin du kavod et le maître a besoin du kavod. Ouais. Maintenant, si on dit que le kavod, c'est quoi? C'est le droit d'exister. Et exister, c'est quoi? C'est être à l'extérieur. La tzed mina koar et la poal. D'accord? Donc aussi, il va exister le kavod entre un homme et une femme. Parce qu'Hachem, il a mis un homme en face d'une femme. D'accord? Et la femme, elle a des choses à apporter au mari. Et le mari, il a des choses à apporter à la femme. Maintenant, pour que chacun puisse exprimer ce qu'il contient, il faut que je lui passe le kavod. Maintenant, c'est quoi le kavod? C'est que dans notre rapport de coexistence, je te laisse exister. Et je n'ai pas peur de ton existence. Je ne me sens pas agressé par ton existence. Ben, il y a des gens, malheureusement, qui ont atteint un certain niveau de névrose, qui pensent que l'autre, en existant, les empêche d'exister. D'accord? Mais l'autre, il a un grand caractère.
Il y a aussi des gens qui s'arrogent le droit
de la victimisation. Oui, bien sûr. Voilà. Ah, je vais venir, mais essayez de ne pas m'interrompre. Parce que même moi, je ne sais pas où je vais. D'accord? Donc c'est quoi? Et ça, c'est très... Non, parce que j'ai repris le même cours, mais je l'ai pris d'une autre manière. Donc je ne sais pas, on verra comment ça va sortir. Si c'est comme de Mazzalo. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Ça, c'est très important. C'est que quand je vais être en face d'une réalité, cette réalité, elle me propose d'exister. D'accord? Et moi aussi, si elle est en face de moi, c'est que j'ai quelque chose à apprendre d'elle. Maintenant, quand je fais kavod, d'accord, ça veut dire que je donne le droit d'exister, mais étant donné que c'est une épreuve pour moi, une épreuve, on peut s'en servir pour grandir ou on peut s'en servir pour victimiser, pour se cacher derrière. D'accord? Quelqu'un qui a un papa qui a une forte personnalité. D'accord? Moi, par exemple, mon père était très, très effacé. Oui? Alors, j'ai dit, bon, j'aurais bien voulu pouvoir parler avec mon père. Il ne parlait pas beaucoup. Mais moi, j'arrête pas de parler. Mais peut-être que si j'avais eu un père qui avait beaucoup de charisme, j'aurais pas pu parler. Peut-être mes enfants, ils ont des problèmes de communication parce que moi, je parle trop. Parce que si moi, j'existe trop, on dit que c'est difficile de grandir à l'ombre de quelqu'un. Mais des fois, l'ombre, elle est épaisse comme le Choshech Mitzrayim. Ça veut dire que tu es paralysé par la grandeur de l'autre. Donc comment tu vas faire pour être assez grand pour exister et assez petit pour laisser exister? C'est pour ça qu'on a plusieurs facettes à l'intérieur de soi-même. Ouais. C'est pour ça qu'en même temps, on doit être un homme d'affaires très très fort et en même temps, on doit être un papa gâteau. Comment tu peux faire? En même temps, on doit être un homme qui rassure sa femme et en même temps, on est sensible et on peut pleurer avec elle. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a un espace qui fait exister et un espace qui rassure. Maintenant, si moi, au moment où j'ai besoin de toi, toi tu t'effaces, j'ai dit, mais ça ne sert à rien, je veux que tu sois fort. Mais d'un autre côté, quand j'ai besoin que tu sois sensible, il faut que tu me laisses exister. Donc la sensibilité, en vérité, c'est quoi? C'est de créer un espace pour que l'autre existe. Mais le fait d'assumer, c'est aussi empêcher l'autre d'exister. Parce que l'autre, maintenant, il a besoin de moi, il faut que je tienne le volant. Maintenant, si je dis non, mais je ne vais pas l'écraser, alors je ne vais pas exister. Alors maintenant, la question, ça va être quand est-ce que tu dois exister, quand est-ce que tu ne dois pas exister. Voilà la logique. Il dit maintenant, ici, c'est pareil. Quand la personne, elle rentre dans le magasin, c'est quoi le magasin? Le magasin, c'est un projet. Le gars, il a fondé que maintenant, il veut exister, il veut se réaliser, il veut faire sa parnassa à travers ça. Donc lui, il a tout un projet de gagner de l'argent et de nourrir sa famille. Oui. Et toi, tu viens dans ce projet et qu'est-ce que tu fais? Tu crées une déception. Parce que tu lui dis, mais combien ça coûte ce produit? Mais tu sais que tu ne veux pas l'acheter. Mais toi, tu peux être, entre guillemets, le partenaire du projet de l'autre. Or, on a dit que le projet, c'est quoi? C'est d'exister. Maintenant, toi, tu vas exister à travers ton magasin, tu vas exister à travers ta famille, tu vas exister comme tu existes à travers tes parents. Pourquoi ça t'énerve quand on insulte tes parents? Tu dis, bah écoute, il insulte mes parents, il pourrait insulter la France, il pourrait insulter les chimpanzés, mais il insulte tes parents. Mais mes parents, c'est moi. Mais c'est pas toi. Toi, tu es là et tes parents, c'est autre chose. Mais non, puisque j'existe à travers mes parents. Donc quand tu insultes mes parents, tu insultes un axe d'existence à moi. Quand tu insultes ma femme, qui me représente aussi, donc tu insultes, donc tu casses une partie de mon existence. Quand tu agresses mes enfants, ouais, tu agresses quelque chose qui en moi est un projet d'existence. Ça veut dire que tous les axes de mon existence, toutes les choses à travers lesquelles j'existe, à chaque fois que tu les remets en cause, en fait, tu m'empêches d'exister. Ça va? Bravo! Ouais, et ça c'est très très important de comprendre. Pourquoi? Parce que là encore, si on comprend bien qu'une personne, elle ne s'arrête pas. Les gens égoïstes, ils s'arrêtent à la limite de leur peau. Ouais. Mais les gens généreux, ils existent au-delà de leur peau. Ils existent au-delà, dans leur famille, dans leurs amis, dans leur cercle d'influence. Maintenant, Hachem, il peut te faire exister jusqu'au bout du monde. Tu vois que le Rajba, il existe jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement il a existé, que même 1000 ans après, on cite encore le Rajba. Donc ça veut dire qu'il a existé beaucoup, pas seulement pour lui, il a existé aussi pour les générations à venir. Par contre, il y a des gens qui ont vécu à l'époque du Rajba, et qui ont profité, qui ont kiffé, qui ont mangé, qui ont digéré, qui sont morts. On ne les connaît pas. Leur tombe, elle a disparu. On ne sait même pas où ils ont vécu. On ne sait même pas qu'ils sont nés, on ne sait même pas qu'ils sont morts. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont existé pour eux. Donc quand quelqu'un il va décider quel va être son champ d'extension de l'existence, combien tu veux exister? Maintenant, si moi je dis que le kavod, c'est le droit d'exister que je le donne à l'autre, ouais. Donc si moi, je me donne à moi le droit d'exister, ça s'appelle kavod atzmo, c'est le respect de soi. C'est pour ça que toujours un homme, il doit faire un travail de valorisation personnelle et de connaissance de ses capacités et de se donner des chances. Maintenant, à chaque fois, étant donné que tout ce qui existe en kasher existe en taref, et tout ce qui existe en taref existe en kasher, donc comme il existe le respect de soi, il existe l'orgueil.
Le respect de soi,
ouais. Comme il existe la détermination, il existe l'entêtement. L'obstination. Ça veut dire que chaque qualité, elle existe en bien et en mal. C'est pour ça que c'est marqué, ouais, qu'un homme, Ve'a afta et Hashem Elokecha, Bechol, Levavecha. Tu vas servir Hashem de tous tes cœurs. Donc tu vas servir avec ton Yetzer Hatov et tu vas servir avec ton Yetzer Hara. Maintenant, le jour où tu vas être capable de te servir, attention, des qualités qui proviennent de tes défauts, et des défauts qui proviennent de tes qualités. Vous savez, quand on dit en français, quand quelqu'un est gentil, quand il est trop gentil, on dit trop bon, trop long. Ouais, on appelle un défaut qui vient d'une qualité. Quand les gens sont gentils, on abuse d'eux.
On abuse d'eux.
D'accord, ça c'est un défaut qui vient d'une qualité. Mais aussi, il y a des qualités qui viennent des défauts, puisqu'on a dit quelqu'un qui est vraiment un entêté, un jour, si tu veux, il va être quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui est intolérant, le jour où il va être intolérant avec lui-même, il va devenir un grand sadique. Mais pour l'instant, il est intolérant avec les autres. Donc tu vois que l'intolérance, qui est un défaut, elle peut générer une qualité. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste que tu gères le flux, c'est-à-dire vers où tu vas orienter le faisceau. Ouais, est-ce que tu vas l'orienter vers ça ou tu vas l'orienter vers ça? Est-ce que tu vas en faire du bien ou est-ce que tu vas en faire du mal? Mais là aussi, encore une fois, quand tu vas utiliser ce potentiel que tu as en toi et que tu vas l'orienter vers le bien ou vers le mal, en vérité, ça s'appelle encore le kavod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit que le kavod, c'est le droit d'exister que chacun a, ouais, et que exister, c'est la nature profonde et le projet de l'homme, c'est normal que Hachem, il s'appelle Melech HaKavod. C'est normal qu'il s'appelle Melech HaKavod. Ouais. Ça veut dire que c'est lui qui est le roi du respect. Ça veut dire quoi? C'est lui qui va donner à chacun la potentialité de réussir. C'est lui qui va donner à chacun la potentialité de se réaliser. On a lu Parashat Yitro ce Shabbat. D'accord? Il y a un midrash incroyable que quand Yitro il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu, il a eu un roi HaKodesh, parce que lui, il ne pensait pas sortir. Lui, il a dit, bon, j'étais un prisonnier en fuite, je me suis retrouvé en Midian, là-bas j'ai rencontré une femme, je me suis marié, et maintenant, je suis une autre vie, maintenant je suis le prince d'Israël, je suis le roi d'Israël. Oh, il vient le beau-père, ouais, qui est d'ailleurs le chef des curés du monde entier, il fallait la jouer un peu discrète, ouais, avec ma femme et mes deux enfants. Hachem, il lui a parlé, il a dit, écoute, Yitro, tu sais d'où est-ce qu'il est venu? Il est venu de Shem Shamaï. Et là-bas, il a dit un langage incroyable. Hachem, il a dit « Ani amekarev et ani amerafek ». C'est moi qui éloigne la personne et c'est moi qui rapproche la personne. Et lui, je l'ai rapproché. Alors toi, tu te lèves et tu vas le voir. Alors il s'est levé. Après Aaron, il est sorti derrière. Après Nadav Aviou, ils sont sortis derrière. Et le Midrash, il dit « Même le Aaron HaKodesh, il est sorti. » Le Aaron HaKodesh, oui. L'Arche Sainte qui contient les Loukhot. Elle s'est mise à flotter, elle a suivi. Ça veut dire tellement il a de valeur, il trop. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est ce langage du Midrash quand il dit « Ani amekarev, ani amerachek ». Hachem, il a dit ça. Je dis « Mais attends, mais un kol bide shamayim chutz mirat shamayim ». Ouais, donc Hachem, il ne va pas te rapprocher de la Torah, Hachem ne va pas t'éloigner de la Torah. C'est la seule chose qui est dans ton libre arbitre. Est-ce que tu décides de faire tes chouvas et de devenir religieux, ou tu dis non, je veux rester éloigné de la Torah, laissez-moi tranquille. C'est toi qui décides ça, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ani amekarev, ani amerafek. Mais c'est quoi Ani? C'est quoi Ani? Ani amerafek, ani amekarev, il y a deux lectures. C'est que Hachem, il ne va pas te faire faire tes chouvas, ou il ne va pas te faire faire. Maintenant, il va te mettre un truc dans la tête, d'un seul coup, tu travailles, tu dis je mets les téfilines. Non! Mais ils peuvent te mettre une situation qui va te donner envie. Il va te faire rencontrer le bon rave. Il va te mettre invité chez des gens qui vont te montrer la beauté du Shabbat. Ou il va t'envoyer une tréha au business que d'un seul coup tu dis il faudrait que je réfléchisse à ce qui m'arrive. Genre tu te fais cambrioler trois fois de suite, trois années et le jour de Rosh Hashanah, tu réfléchis. D'accord? Ouais. Ou le docteur il te dit bon c'est bizarre que la radio des poumons elle a la forme des halotes de Shabbat. Non? Alors tu dis peut-être c'est une tumeur de Shabbat. Ouais. Donc c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il peut créer des circonstances qui vont te faire te rapprocher d'Hachem. Comme il peut créer des circonstances qui peuvent te faire t'éloigner d'Hachem. Celui-là, il a perdu un enfant, il a laissé tomber la Torah. Maintenant, avec celui-là, avec une perte d'enfant, quelqu'un, il pouvait faire un renforcement extraordinaire et prendre sur lui, et prendre des pages de Gemara et changer sa vie. Ou dire non, Dieu n'existe pas, il laisse tomber. Ça s'appelle Ani Amerachek. Mais à chaque fois, tu avais le choix. Ouais, le même événement, tu peux en faire une chose extraordinaire ou tu peux te détruire. L'autre jour, j'ai rencontré un jeune couple comme ça. Je dis, ça fait combien de temps que vous connaissez? Bon, quel âge tu as? 26 ans. Et toi? 24 ans. Ah bon? Alors, combien de temps vous connaissez? 4 ans. Alors, il faut vous marier. Ah, mais Raph, c'est pas évident. J'ai pas fini ma situation. J'ai pas mon diplôme. J'ai pas mon truc. Et on ne sait pas les parents, les beaux-parents. On connaît pas la situation en France. On ne sait pas. Je lui dis, mais dis-moi, il y a des gens qui se sont mariés au ghetto de Varsovie. D'accord? Et tous les jours, ils pouvaient être raflés. D'ailleurs, ils ont été raflés deux jours après. Et ils ont eu deux jours de bonheur. Et après le troisième jour, ils étaient morts. Et vous, que vous êtes en pays tranquille, pour l'instant la France qui est un pays musulman, on peut quand même étudier la Torah, d'accord? Ouais. Vous qui êtes en France, que vous avez des parents, que toi tu es en quatrième année de médecine, qu'elle est en troisième année d'école de commerce, vous ne pouvez pas louer un petit studio à 500 euros et manger du pain et du beurre et être heureux tous les deux et au lieu de faire des avéros tous les jours? Vous ne pouvez pas faire ça. Ça veut dire qu'on vous a donné la possibilité. Ça s'appelle Ani Amekarev. Maintenant, toi, tu dis, non, je préfère faire des avérotes comme ça. Après 4 ans que je l'ai connue, je vais rencontrer une autre et je vais lui dire, elle, on n'est plus ensemble, on n'est pas bien, parce qu'elle était juste pour m'aider pendant les études, elle me tenait mon cartable, maintenant je peux la jeter. Ani Amerafek. Oui. Mais il y a une autre lecture. C'est pas seulement que Akadosh Baruch Hu, il va créer le contexte de ta teshuva, ou le contraire, il va créer le contexte que tu vas tout lâcher. Et les deux existent. Encore une fois, le contexte ne justifie pas ce que tu es. Mais il peut être qu'une occasion. Maintenant, quand Hachem crée un contexte, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il te met en situation de. Donc, il te fait un kavod pour ta teshuva, ou il te fait un kavod pour le contraire de ta teshuva. Puisque le kavod, c'est quoi? On a dit, c'est le droit d'exister, c'est l'espace que je crée pour que tu le fasses. Maintenant, je peux t'inviter, comme on dit en français, une invitation à. Je peux t'inviter à t'améliorer, ou je peux t'inviter à t'enfoncer. Comme si tu as un père qui mangeait très vite, et bien tu dis, ben, à cause de lui, je mange vite. Ou tu peux dire, non, j'ai appris de lui de ne pas manger vite. Moi, mon rave, il fumait 4 paquets de Marlboro par jour, rouge, mais j'ai appris de lui de ne pas fumer. J'ai appris de lui, quand j'ai vu comment il était nerveux pendant le Shabbat, j'ai appris de ne pas fumer. J'ai parmi les enseignements, j'ai appris de ne pas fumer. Pourtant, il fumait. Maintenant, les trois quarts, par mimétisme, ils ont appris à fumer, parce qu'il aura vu fumer. Donc, c'est-à-dire, Allah le Moshe Sinaï, qu'il faut fumer. Ouais. Et moi, j'ai dit, non, je vais apprendre de là qu'il ne faut pas fumer. Tu peux apprendre aussi. Et ça, maintenant, quand moi j'ai appris, entre guillemets, du choix de l'autre, pour ne pas dire de l'erreur, ouais, j'ai aussi fait cavode à cette erreur parce que j'en ai appris quelque chose. Donc j'ai fait exister le potentiel qui existait dans cette erreur. Ça va? C'est ça qu'on dit qu'on peut apprendre de tout. Mais maintenant, pour pouvoir apprendre de quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais, il faut le respecter. Maintenant, si on dit que le bien, il est là pour aussi nous apprendre du bien, et que le mal, il est aussi là pour nous apprendre du mal, et que moi, mon travail à moi, c'est d'aller chercher le potentiel de bien qui existe dans le bien, et le potentiel de bien qui existe dans le mal, je ne pourrais percevoir ce potentiel que si je lui fais kavod. C'est ça le kavod. Donc le kavod, c'est pas simplement le respect et la politesse et la priorité qu'on doit donner aux personnes âgées et qu'il faut la galanterie envers les femmes et le kavod qui est dû au rav. Vous avez compris, le fondement du kavod, c'est comme un décapsuleur de potentiel. C'est comme un engrais. Tu vas mettre de l'engrais, ça va pousser, ça va mieux pousser. C'est pour ça que quand on dit que les chabed, c'est respecter quelqu'un, mais les chabed et tabaït, c'est nettoyer la maison. mais quel rapport entre les chabed et arabe et les chabed et abaïd, ça n'a rien à voir. Si, pourquoi? Parce que la maison, comme tu la vois comme ça, tu dis quel balagan, là-bas il y a les chaussettes par terre, là-bas il y a la veste, le manteau il est resté sur le canapé, ça fait 4 jours, le linge châle ils l'ont posé à l'entrée de la salle de bain. Maintenant toi tu viens, tu dis allez viens, on va ranger la maison. D'un seul coup tu fais apparaître une autre maison, tu dis waouh, ah, quelle maison. Donc en réalité qu'est-ce que tu as fait? En nettoyant la maison, tu as fait apparaître la maison. En nettoyant la maison, tu as fait apparaître la maison. Maintenant, quelle différence entre le linge châle qui traîne par terre et qui fait le balagan dans la salle à manger, ou alors les a priori négatifs que tu as sur quelqu'un qui fait que son visage, il t'apparaît noir? Ça va? Toi, tu vois quelqu'un avec des défauts, parce que tu as peur de l'autre, ou parce que tu n'es pas à ton aise, parce que toi, tu trouves que l'autre, il est trop affirmatif, justement parce que toi, tu es très complexé. Donc toi, tu dois faire kavod. Maintenant, quand tu vas faire kavod, ça veut dire quoi? Tu vas enlever les a priori que tu as, et ça, c'est une autre mitzvah. Ça s'appelle d'être dans les caves de coup, tu vas juger du bon côté. Donc d'un seul coup, tu vas nettoyer tous ces doutes-là, tu vas nettoyer ces peurs. Mais ce n'est pas ces défauts à lui que tu enlèves. C'est ton regard à toi que tu changes. Ça veut dire que quand tu fais kavod à l'autre, en vérité, tu lui donnes le droit d'exister. Mais réfléchis bien que l'effort que tu fournis pour lui donner le droit d'exister, c'est surtout à toi que tu donnes le droit d'exister. Parce que si tu n'as pas géré tes complexes, et si tu n'as pas géré tes peurs, et si tu n'as pas géré tes névroses, ouais, tu crois que c'est parce que les gens ils t'aiment pas, et t'es paranoïaque. Ouais, tu crois que les gens ils ont un double visage, mais toi-même t'es schizophrène. Ouais, toi tu penses que les gens ils cherchent à te détruire, mais toi-même t'es une pervers narcissique, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as compris ou non? C'est qu'en vérité les trois quarts des problèmes qu'on voit chez les autres, c'est nous-mêmes qui les créons. C'est nous-mêmes qui les transposons. Et même si objectivement, entre guillemets, ça existe, d'accord? Mais en quoi ça t'intéresse d'être psychiatre des autres? T'as qu'à te soigner toi. Le principe en soi, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est marqué, qu'on te dit que tu ne peux pas rentrer dans le magasin et dire j'ai envie d'acheter. Ouais, pourquoi encore une fois? Parce que la personne, elle est dans un projet, elle est dans un mouvement, d'accord? Elle a dit je crée le magasin, je mets la marchandise, les clients y rentrent, j'achète, je prends cet argent, je nourris mes enfants. Donc elle est dans un projet. Quand toi, en plein milieu du projet, tu mets une cassure, parce que tu mets un blocage, parce que tu mets un rêve, tu mets une déception, en vérité, tu casses un projet. Tu casses le projet, d'accord. Encore la semaine dernière, je sais plus. Des parents qui sont venus me voir, Rabbi Chesed, qu'est-ce qu'on doit faire? On a un enfant qui a des très grandes difficultés, il est même un peu ralenti, il y a une mora qui est avec lui toute la journée, Et on avait promis que s'il arrivait à 14 de moyenne, alors on lui offrait je sais pas quoi. Et finalement, il a atteint que 12. Alors mon mari, il a dit qu'on lui donne pas parce qu'il n'a pas atteint 14. Je lui ai dit, mais il était à combien de moyenne? Il m'a dit, mais il était à 5. Il était à 5. Il est passé à 12. Ouais. Et vous, comme il n'est pas à 14, je lui ai dit, mais le 14, c'est quoi? C'est une note qui est arbitraire, c'est un truc qui vous aurait fait plaisir. C'est par rapport au prof de lui dire, tu vois mon fils, tu l'as dit qu'il est handicapé mental, voilà je lui ai fait un 14. C'est pourquoi? C'était quoi de ce 14? D'où il sortait ce 14? Je lui dis premièrement, et je lui dis deuxièmement, je lui dis, vous savez peut-être que les écoles, elles notent selon les notes, mais nous, on doit noter selon les efforts. Est-ce qu'Hachem, il regarde les résultats ou est-ce qu'Hachem, il regarde les efforts que tu fournis? Qu'est-ce qu'il regarde Hachem?
Les résultats
ou les efforts?
Les efforts.
Pourquoi il regarde les efforts? Parce que les résultats, ils dépendent de lui. Tu crois que tu es pas là-bas avec des résultats, toi, maintenant? Je crois parce que tu as ouvert le magasin, les clients, ils sont rentrés. Si Hachem, il a de l'humour, il fait rentrer tous les clients dans le magasin d'à côté. Et chacun, il rentre, il fait comme ça. Et tu vends une meilleure marchandise, et tu vends moins cher, et tu es un meilleur vendeur, et il rentre à côté. Voilà l'humour d'Hachem, comme ça. Voilà. Il faut que tu travailles un peu ta modestie. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il ne regarde pas les résultats. Hachem, il regarde des efforts. Celui-là, il a appris toute la Gemara par cœur. Et celui-là, il a fait 10 pages de Gemara. Mais celui-là, il a tellement crevé pour les faire. Hachem dit, je lui donne. Mais celui-là, il est né avec la tête du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que quand il se mouche, il y a 23 d'abîme de Gemara qui sort. Alors tu vas lui donner un srap hein, parce qu'il a fini Yevamot. Mais Yevamot, c'est rien pour lui. C'est rien. Il lève les bras, il y a Yevamot qui sort. C'est rien. Donc tu ne peux pas lui donner pour ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit à ses parents-là. Mais regardez ce qu'il a fait votre enfant. Il est arrivé à un 12. Quelqu'un qui était qualifié d'handicapé mental. il est 12 de moyenne. C'est extraordinaire. Mais vous, tu dois lui doubler la récompense. Tu ne dois pas lui dire, c'est dommage, tu aurais pu faire mieux. Pourquoi ? Il m'a dit, mais vous me dites ça, mais c'est bizarre, parce que quand mon mari lui a dit, je ne te donne pas la récompense, maintenant il ne fait plus rien à l'école. Tu as compris maintenant ? C'est normal, il est en plein élan. C'est comme, c'est le coureur, ouais. Il est comme ça, vous savez, ça fait déjà 4 ans qu'il se prépare pour la finale des 100 mètres. 4 ans, depuis l'âge de 8 ans, il fait de l'athlétisme. Maintenant, ça fait 4 ans qu'il prépare les Jeux Olympiques. Il a été sélectionné. Maintenant, il est là. Et au moment où il fait, hop, comme ça, tu lui coupes les deux jambes. Ah, il va tomber par terre. Lamentablement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il est toujours dans une courbe. Ouais. Maintenant, des fois, la courbe, elle est comme ça. Des fois, la courbe, elle est comme ça. Des fois, la courbe, elle est à peine perceptible. Mais il est dans une courbe. Toi, tu respectes la courbe de l'autre. Ça s'appelle que tu fais cavode à l'autre. Maintenant, l'idée, c'est que tu dois faire kavod à tout le monde. Pourquoi ? Parce que si on dit que le kavod, c'est le droit d'exister, et que Hachem, il donne le droit d'exister, parce que c'est pour ça qu'il s'appelle Melech HaKavod. Or, bizarrement, Hachem, il donne le droit d'exister à tous ceux qui existent. Ça va ? C'est fini ? Oui ? Alors, pourquoi est-ce que moi, je vais décider que celui-là, il n'a pas le droit d'exister ? Celui-là, il est ménère. Celui-là, il n'est pas comme je voudrais. Celle-là, c'est pas mon genre. Celle-là, c'est pas mon truc. Celle-là, elle pense pas comme moi. Celle-là, elle va d'accord avec moi. Mais papa, entre guillemets, si Dieu, il le supporte, toi, tu n'arrives pas à le supporter. Mais Dieu, c'est pas seulement qu'il le supporte. C'est que Dieu, il le supporte. Dieu, il le soutient. Ouais. Dieu, il lui donne des forces. Dieu, il lui donne des moyens. Et toi, tu penses qu'il ne sert à rien. Et toi, tu penses que c'est une erreur de la nature. Mais si c'était une erreur, il ne serait pas venu. Rappelez-vous que Yud-Ké-Vav-Ké, le nom divin Yud-Ké-Vav-Ké, la racine c'est Ové, et qu'on appelle Avaya, et qui s'appelle Ame-Ave Kola Avayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Hachem, il s'appelle celui qui fait être tout ce qui est. Donc tout ce que tu as devant toi n'est que le fruit de la volonté de celui qui a fait être tout ce qui est. Maintenant, si Dieu a fait être ce qui est, c'est qu'il pense que cette chose-là, elle vaut la peine d'être. Maintenant, tu rentres pas dans les calculs, parce que toi, tu ne sais pas ce qui est bien d'être et ce qui n'est pas bien d'être. Ouais. Et que ce que peut-être que tu penses ne pas être bien d'être, c'est que ça soit bien que ça soit. Pourquoi ? Parce que ta notion du bien et du mal à toi, elle est restreinte. Et en plus qu'elle est conditionnée par le fait qu'on t'a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et que toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas avoir le même regard qu'Hachem. Donc Hachem, il a un regard qui est global, et toi, tu as un regard qui est particulier. C'est la différence entre le émet et le émet. Ça s'appelle la vérité absolue et la vérité relative. Dieu, il a une vérité absolue. Il voit la globalité du schéma. Toi, tu as une vérité relative. Parce que tu veuilles ou non, tu es conditionné par tes intérêts et par tes capacités. Combien tu peux voir ? Maintenant, toi, tu voudrais te mettre à la place d'Hachem et décider qu'est-ce qui est émet ou qu'est-ce qui n'est pas émet. Et c'est quoi émet ? Confirmation. Ouais, c'est quoi Emet ? On avait dit Emet, c'est Matim, vous rappelez ou non ? J'ai dit ici ou non ? Emet, c'est Matim. C'est quoi Matim ? C'est adapté, c'est convenable. C'est pour ça que Rav Olbe, il dit à Emet chez Eno Matim, Zekimat Sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. C'est par exemple, c'est comme si moi, maintenant je vais venir et je vais vous enseigner les halakhot du Netziat Yadayim d'après le Zohar. C'est émet. Mais c'est pas adapté. Par exemple, si quelqu'un il se lève le matin et il fait plus de 2 mètres sans faire Netziat Yadayim, il doit mourir. Hayav Mita. Et voilà. Donc toute la salle est remplie de zombies. Tout le monde est mort. L'autre, il ne savait même pas qu'il fallait faire moins de Arbamot. L'autre, il ne savait même pas qu'il fallait se faire Netziat Yadayim. Ouais. Mais là-bas, et le Mishnah Berurah, il rapporte ça. Mais il dit que ça, on le rapporte. En fait, c'est pour qui ça s'adresse. C'est d'abord, c'est écrit dans le Zohar. Donc, c'est déjà une lecture d'après la Kabbalah. Deuxièmement, que c'est pour le Talmid Chacham. Qu'un Talmid Chacham, que lui, dès qu'il se réveille, il est 99,999% dans la Torah. Et que sa pensée de Torah, elle est perpétuelle. Donc, et que quand quelqu'un se réveille, il est impur, et qu'il ne peut pas penser à la Torah en étant impur. Donc, et que s'il pensait à la Torah en étant impur, cette Torah, elle nourrirait l'impureté. Donc lui, il est obligé de se laver les mains tout de suite, sinon il est hayal mita, c'est-à-dire il est sanctionnable de mort, parce qu'il va amener une Torah impure dans le monde, où il va amener un renforcement de l'impureté par la force de la Torah. Ça va ? Mais nous ne sommes pas vraiment concernés, parce que c'est rare que tu te réveilles à 7h du matin et que tu as trouvé le tirout à la couchette de Rabbi Akiva Eiger. C'est rare. C'est rare. Tu te demandes surtout est-ce que tu as mis tes chaussettes ? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très important, ça veut dire que cette Torah là, cette Torah du Zohar, ouais, vous savez que le Rav Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch. Après, quand il était très proche du Arizal, il a voulu réécrire le Shulchan Aruch, les filles à Arizal. Oui, mais il est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas adapté. Parce que s'il avait écrit le Shulchan Aruch, les à Arizal, il y aurait eu 10 juifs, 10 juifs religieux dans le monde. Tous les autres, c'est des goïms. Par rapport au anagot du Arizal. Alors on a laissé le Shulchan Aruch, qui est accessible à tout le monde. Ah, il y a aussi des gens qui n'acceptent pas. Bon, ouais. Mais ça, c'est une logique normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça s'appelle un emet chez Eno Matim, Eno Kimat Sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. C'est comme si je vais dire à l'enfant, prends-toi en main, décide quel genre de fille tu vas épouser, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, comment tu vas payer ton loyer, comment tu comptes amortir l'investissement que tu mettras dans ta société. Mais il a 8 ans. Tu dis, mais il vaut mieux qu'il commence tôt, comment il sera plus mature, mais il a 8 ans. Donc, ce discours-là, pour un enfant de 8 ans, c'est un mensonge. Vous me suivez ou non? Maintenant, le pire, c'est que c'est même des enfants de 38 ans. Une femme, elle m'appelle, elle me dit, voilà, mon mari, il est comme ça, il est comme ça. Une femme, elle me dit, mon mari, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je dis, madame, je pose la question. Vous attendez des choses de lui? Oui. Il ne les fait pas, il ne les fait pas. Ou elle ne les fait pas, elle ne les fait pas. Je pose la question. Est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas? S'il ne peut pas, ça ne sert à rien d'exiger quelque chose qu'il ne peut pas. Tu sais pourquoi? Parce que en ce qui concerne ce type de comportement, il est enfant. Et toi, tu tiens un discours d'adulte. Un enfant. Maintenant, ton entêtement à exiger de quelqu'un une chose qu'il ne peut pas faire, parce que tu veux que le manchot y joue du piano, s'il le veut vraiment, avec son nez, il ne peut pas, il est manchot. Manchot. Ouais.
Mango.
Ouais. Manco. Il lui manque quelque chose. Ouais. Donc, le manchot, il ne peut pas jouer du piano. Oui. Donc le gars qui n'a pas confiance en lui, il ne peut pas être chef d'entreprise. Je dis, ouais, mais je ne comprends pas, tu ne prends pas l'initiative. Le gars, il est employé, il est bien, je suis un employé, je suis bien. Ce qu'on me demande de faire, je le fais bien. Tu dis, oui, tu ne prends pas l'initiative, on pourrait gagner 40 millions d'euros. Mais il ne peut pas, le gars, il est employé, il est formaté employé, tu veux qu'il soit patron. Puis peut-être qu'il fait une thérapie, peut-être qu'il revient en Guilgoul, je ne sais pas, peut-être qu'il va le faire. Mais pour l'instant, il ne peut pas le faire. Mais toi, tu t'es mis dans la tête qu'il ne veut pas le faire. Donc tu lui exiges une chose qui n'est pas adaptée à lui, c'est l'omatimlo. Comme c'est pas adapté à lui, c'est du shéker. Et pourtant il a 40 ans. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un décalage entre le pouvoir et le vouloir, ouais, entre l'exigence et la réalité, ça s'appelle du shéker, ça s'appelle du mensonge. Maintenant pourquoi? Parce que toi encore une fois, t'as voulu et c'était dans une bonne volonté. C'était dans une bonne intention, mais moi c'est pour le faire grandir, mais moi c'est pour qu'elle assume ses responsabilités, moi c'est pour qu'elle soit une maman qui soit mature. Eh bien, vous venez de découvrir que les bonnes intentions ne sont pas toujours louables. Les goïms, ils ont un proverbe, ils disent « L'enfer est pavé de bonnes intentions. » L'enfer, le guéinal, avec quoi on a fait le parterre? Avec des bonnes intentions. Donc méfie-toi de tes bonnes intentions, parce que peut-être que tes bonnes intentions, c'est de la cruauté, mais transformée, habillée en mitzvah. Ouais. C'est-à-dire, tu veux casser l'autre, mais tu n'es pas un homme de Cro-Magnon qui met un coup de masse sur la tête de l'autre. Non, tu vas le casser avec la Torah, tu vas le casser avec la psychologie, tu vas le casser avec le harcèlement moral. Mais c'est pareil, tu es un monstre, mais civilisé. Et pourtant, ton intention c'était quoi? De le faire exister. Donc c'est-à-dire, de lui faire kavod. Alors ça, c'est ça l'intelligence, c'est de trouver quelle est la dose de kavod qui est nécessaire. J'avais déjà raconté ici, je me rappelle, quand j'avais 16-17 ans, j'étais en pleine crise de philosophie. Et j'attrapais mes frères, je leur disais, mais regarde, ça c'est le temps, ça c'est la réalité, ça c'est la perpétuité des choses, ça c'est l'objectivité. Et je l'ai stressé. Alors ma soeur, elle m'a dit, mais regarde, ils ont 13 ans. Elle dit, mais je veux pas qu'ils perdent le temps avec des bêtises, qu'ils deviennent des gamins, des possibles, des nuls. Je vais leur faire gagner du temps. Tu ne leur feras pas gagner du temps. Tu vas les traumatiser. Toi, tu as fait un chemin, eux, ils vont trouver un chemin. Maintenant, tu peux mettre en situation les autres, tu peux leur donner envie, mais tu ne peux pas les fabriquer, tu ne peux pas les sculpter, tu ne peux pas les faire. Ouais. J'ai fait un cours dimanche soir, il y a un monsieur là-bas très 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 intelligent. Je ne dis pas ça de beaucoup de gens. Ouais. Il n'est pas religieux, mais il est très très intelligent. Il a fait l'ENA et Normal Sup en même temps. Un peu le genre de tronche. Il y a déjà 40 ans. Ouais. Il était conseiller des présidents de la République et tout. Il est très modeste, très gentil, très technique comme ça. Enfin, une tête, une fusée. Alors il m'a dit, vous avez un pouvoir extraordinaire. De donner à comprendre des choses tellement profondes, ouais, que les gens ils les sentent accessibles. Et j'ai dit, vous savez pourquoi? Parce que moi, quand je veux faire une fleur, je ne dessine pas une fleur. Moi, je dessine des pointillés. Et le gars, il dit, oh, une fleur. C'est quoi la tentation de l'enseignant? C'est quoi la tentation du parent? C'est quoi la tentation du patron? C'est d'inciter. Alors que c'est quoi la mitzvah? C'est de susciter. Comme Akadosh Baruch Hu, il pourrait nous inciter. Hachem, il a la télécommande de nos pulsions, de nos pensées, de notre Yetzer HaTov, etc. Il pourrait nous faire des robots. Hachem, non. Il fait passer devant toi la mitzvah. Il fait passer devant toi la vera. Il fait passer devant toi le hidush. Il fait passer devant toi le bitul Torah. Ils sont là devant toi, en pointillés. Et toi, si tu veux, tu dis, wow, mais c'est une occasion de mitzvah extraordinaire. Et tu vois la fleur. Donc un homme, il doit apprendre ça. Maintenant, le fait, de inciter, de susciter l'autre, de susciter chez l'autre, ça s'appelle le respect que tu as de l'autre. Mais le fait d'inciter l'autre, même si tu penses que tu as raison et que Blaine Arat est une grosse tête, ouais, ça s'appelle que tu imposes à l'autre. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver la patience quand on connaît la solution de ne pas l'imposer à celui qui la cherche? T'as compris cette logique ou non? Maintenant, je ne parle pas des gens méchants, je parle des gens gentils. Les gens gentils qui ont la solution et qui sont en face de quelqu'un qui cherche la solution. Tu dis, mais attends, j'ai la solution. Il cherche la solution. C'est extraordinaire. J'ai la solution. Ouais. Et l'autre, il cherche la solution. Je ne vais pas lui donner. C'est dur. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes, il ne la trouvera jamais. La preuve. C'est que toi, personne ne te l'a donné, tu l'as trouvé. Donc pourquoi tu l'as trouvé? Parce que tu l'as cherché. Mais si quelqu'un te l'avait donné, tu ne l'aurais jamais trouvé.
Mais il faut le dire quand même, on peut le
dire. Mais, écoutez, vous ne venez pas souvent à mes cours. Ouais, je vous donne une clé. Ce que je dis, ouais, je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Les nuances, vous les faites. Maintenant, je suis assez raisonnable pour que vous imaginez que je ne dis pas des choses gros. D'accord? Donc les nuances, vous allez les faire vous. C'est logique. Bien sûr qu'il faut aider. Mais je vous donne le principe général. Parce que souvent, des fois, on croit qu'on aide, mais en vérité, on manipule. Des fois, les gens, ils confondent pédagogie et démagogie. On croit qu'on est pédagogue, en vérité, on est démagogue. Non, ce que je vous dis, c'est des choses profondes. Hein. Je l'ai dit à des doctorats de psychanalyse. Là, vous êtes gentil, vous êtes sympathique, vous venez de digérer la daphné d'hier. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. C'est qu'en fin de compte, on a devant nous une grande tentation. Et ça, c'est une Gemara. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans les Chazal. C'est une Gemara là-bas, Rachid dans Psachim là-bas, c'est la Gemara, elle dit, Le'olam, ilmad Adam, le Talmido, Belashon, Ketzara. Toujours un homme doit enseigner à son élève dans un langage qui est court, qui est concis. Pourquoi? Parce que quand tu parles court, c'est l'enfant qui va être obligé de combler les vides. Et le fait de combler les vides, ça rend intelligent. Mais si tu donnes tout, donc la personne en fin de compte, elle reçoit ce qu'on appelle une télé-Torah, une Torah télé. Il y a tout dedans. Comme le film, il y a tout. Il y a l'intrigue, il y a les images, il y a les dialogues, il y a les personnages, il y a le stress, il y a les côtés un peu... Il y a tout. Donc toi, tu restes comme ça. Ton cerveau n'a pas besoin de fonctionner. Il ne marche pas d'ailleurs. Ce qu'on appelle un consommateur, mais en deux mots. D'accord? Alors que quand tu lis un livre, tu es obligé d'imaginer les images. Ouais. Quand tu lis un proverbe, il faut que tu le développes. Quand tu prends une phrase philosophique, il faut que tu en fasses un rolam. Quand on te donne un théorème, il faut que tu arrives à conceptualiser le concept qui ressort et le phénomène qui en ressort. Donc tu peux faire tu peux synthétiser un phénomène sous la forme d'un théorème. Moi, j'ai toujours eu de l'admiration pour les mathématiciens. C'est vrai, hein. Les gars, ils peuvent tout te mathématiser. Tout, n'importe quel phénomène, un calcul, un truc, un calcul de l'assurance, un amortissement de magasin, un projet, la vitesse d'une voiture, tout est calculable en mathématiques, en physique. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu vois le phénomène, et eux, ils le mettent en mathématiques. Eux, ils le mettent en formule, ouais. Et l'autre, il regarde la formule, et il arrive à imaginer le phénomène. Bah, c'est ça que la vie en réalité, c'est quoi? C'est que quand je regarde quelqu'un, ouais, moi, quand j'enseigne à quelqu'un, moi, je dois lui donner la formule pour que lui, il développe le phénomène. Mais si moi je lui donne le phénomène, lui jamais il trouvera la formule. Mais alors après ça dépend de moi. Est-ce que je veux avoir des élèves et des enfants qui soient indépendants ou je veux avoir des robots? Est-ce que je veux que les gens ils me fassent plaisir ou je veux que les enfants ils deviennent eux-mêmes? Qu'est-ce que je veux? Donc en fait, est-ce que je les aime plus que moi ou est-ce que je m'aime plus qu'eux? Est-ce qu'ils sont là pour me rassurer dans mes capacités ou alors ils sont là pour devenir eux-mêmes et moi je vais essayer d'être un partenaire de leur accomplissement personnel. Tu décides qu'est-ce que tu vas faire. C'est ça la logique. Ouais. Maintenant, pour réussir à avoir cette force, encore une fois, vous avez compris maintenant, il y a le côté fou, pervers, narcissique, destructeur, manipulateur, ça c'est les fous, mais même chez les gens normaux qui veulent aider les autres à évoluer, il y a une grande tentation comme ça, en fin de compte, au lieu de faire exister l'autre, d'exister à sa place. Mais le problème, c'est que ce terrain-là, il peut se développer parce que justement, il y a un yetzerara chez l'homme de proposer à l'autre d'exister à sa place. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, hein? Et toi, dans cette situation, alors dis-moi ce qu'il faut faire. Voilà, moi je t'écoute. Allez, voilà, moi, tu sais quoi, je suis perdu, je t'écoute. Donc c'est quoi l'idée? C'est que moi, je me mets en situation de dire à l'autre, existe à ma place. Donc d'un côté, il y a un yetzerara chez l'homme de se prendre pour le bon Dieu et de dire à l'autre comment exister. Et il y a un yetzerara chez l'homme, de se mettre en victime et de demander à l'autre d'exister à sa place. Donc, comme Akadosh Baruch Hu, il est mis avec Zivugim, Hachem crée des couples, le yetzerara aussi crée des couples. Ça va? Donc les victimes, ils rencontrent des bourreaux. Et les bourreaux, ils rencontrent des victimes. Les imbéciles, ils rencontrent des malins. Et les malins, ils rencontrent des imbéciles. Maintenant, c'est un grand questionnement philosophique. Est-ce que c'est l'imbécile qui génère l'émergence du malin? Ou est-ce que c'est le malin qui profite de la gentillesse de l'imbécile? Je vous laisse réfléchir à ça. Vous pouvez y penser aux toilettes, ce n'est pas les livrets Torah, et ça peut aider à la digestion. D'accord? Mais c'est quoi l'idée, oui? C'est quoi l'idée? Ça, c'est très important. C'est qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il va faire ces rencontres-là. Il va créer ces phénomènes, ouais. Et ces phénomènes-là, ils apparaissent. Ils apparaissent comme les couleurs. Pourquoi tu vois le clair? Parce qu'il y a le foncé. D'accord? Pourquoi tu vois l'écriture? Parce qu'elle est noire sur blanc. Pourquoi tu vois le relief? Pourquoi tu vois le rouge à lèvres? Parce que l'autre, elle a rajouté un petit trait plus noir autour. D'accord? Pourquoi tu vois les yeux? Parce qu'on a mis ça, on a mis du bleu. Maintenant, pourquoi tu l'écoutes? Parce qu'il parle de manière intelligente. Mais s'il bégayait, tu ne l'écouterais pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien est-ce qu'on peut mettre en relief les choses les unes par rapport aux autres pour les faire exister? Maintenant, pour moi, il n'y a pas de différence entre mettre en relief une personnalité, ou mettre en relief un message, ou mettre en relief un magasin, ou mettre en relief la Torah. Vous avez déjà pris une photo dans votre vie, oui? Quand vous prenez une photo, c'est extraordinaire. Avec les appareils photo d'avant, parce que maintenant c'est autofocus, ouais. Donc les gens, ils sont naturellement hypocrites. C'est autofocus, d'accord? Mais c'est pas évident. Bon. Mais quand vous zoomez, par exemple, vous avez une bouteille qui est posée sur une table. Quand vous zoomez sur la bouteille, le reste est flou. Ça va? Quand vous zoomez à côté de la bouteille est floue. Un contre-effet, d'accord? Maintenant, en vérité, c'est exactement pareil dans la vie. Sur quoi tu zoomes? Parce que quand tu vas zoomer sur quelque chose, le reste va être flou. Celui-là, il a zoomé sur son travail, du coup, sa famille, elle est floue. Celui-là, il a zoomé sur la Torah, du coup, le hod, il est flou. Sur quoi tu zoomes? Sur quoi tu zoomes? Maintenant, il y a des malins, il y a une fonction dans l'appareil photo, tu mets plus l'infini, vous connaissez ça? Et tout est net. C'est extraordinaire. Tout est net, il n'y a pas de flou. Tout est net. Tu mets net jusqu'au plus l'infini. D'accord? C'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il zoome sur rien. Tout est net. Mais nous, malheureusement, nous ne savons pas faire ça. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous zoomons sur ça plutôt que sur ça. Nous faisons des préférences, nous faisons des choix, nous faisons des différences. Et notre effort à nous. C'est pas mal déjà. D'accord? Donc, que nous, c'est quoi? Non, de rien, ça c'est bien. Et ça, c'est très très important qu'on arrive à comprendre que quand c'est marqué ici dans la Gemara que toi tu vas, tu es quelqu'un qui a fait tes chouvas, tu lui dis rappelle-toi de tes actions d'avant. Pourquoi je vais parler comme ça? Pourquoi je vais faire ça? Ah, c'est toujours, j'ai donné cet exemple. Un jour, quelqu'un est venu me voir. À la fin du cours, les gens ils viennent pour poser des questions, pour nous demander des brachot. Bon. Ah là, il y a une femme qui vient, une femme comme ça, religieuse, avec la perruque, et les deux enfants avec les kippotes. Et elle demande, ah, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je lui réponds, elle s'en va. Une autre, elle vient, un peu rola, comme ça. Elle me dit, ah, je voulais juste vous dire, vous avez une question? Je lui dis, non, j'ai pas de question. Non, je voulais juste vous dire que vous voyez la fille là qui est pas venue juste avant. Eh bien, je la connaissais avant, quand elle était allée. On était dans la même classe en terminale. C'était une rola. C'était une. Ouais, un peu bizarre. Qui avait un comportement que tous les garçons, ils connaissaient son anatomie. Ouais. Elle a visité un peu tous les endroits mal fréquentés de la Terre. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, pour vous dire que Baruch Hashem, maintenant, regardez comment elle est sérieuse, elle a fait une bonne teshuvah, elle a marié un rabbin, et maintenant, tous les enfants sont dans la Torah. Et avant, c'était Khalala. Je dis, ah bon, mais pourquoi vous me le dites? Elle me dit, je vous dis pour vous montrer comment c'était, mais j'ai pas besoin. Moi, je l'ai devant moi. Je vois une tzadéké devant moi. J'ai pas besoin de savoir comment elle était avant. Non, mais justement, c'est pour vous dire kolakavod, regardez. Je dis, moi, je crois pas. Moi, je crois pas que vous me dites pour que moi, genre, j'apprécie l'amélioration. Moi, premièrement, parce que peut-être que je la connais, l'amélioration, puisque j'étais dans la première étape aussi. Je l'ai aidé dans la première étape. Donc, je connais la deuxième étape. Mais bon, c'est pas tellement intéressant. Mais j'ai dit, mais ce qu'il y a, c'est que vous, par contre, c'est possible que pourquoi est-ce que vous ramenez son passé au présent? Parce que son présent vous dérange. Pourquoi son présent vous dérange? Parce que son passé, c'est votre présent. Donc comme son présent vous dérange, vous voulez la ramener au passé. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il a fait des chouvas, c'est bien. Mais comme toi, tu continues à aller dans des boîtes de striptease, donc ça te dérange que l'autre, il va plus en boîte de nuit à Elisa. Alors tu viens, tu dis, vous savez, hein, vous le voyez comme ça, mais à l'époque, on allait dans les mêmes endroits. Oui, vous alliez, mais toi, tu vas dans les mêmes endroits. Mais lui, il va plus dans les mêmes endroits. Pourquoi tu es dérangé par l'évolution de l'autre? C'est pareil, Ben Guérin. Ouais, moi aussi, ça aussi, j'ai vu ça. Il vient chez moi, il me dit, vous savez, la personne à qui vous venez de parler, c'est une convertie ou c'est un converti. Je dis, mais quoi, ça vous dérange? Pourquoi vous venez me raconter? Je dis, mais ce que je te dis, le converti, des fois, tu dois apprendre de lui. Parce que le gars, moi je me rappelle, c'était à Pavé, à l'Eshiva de Pavé. J'étais là-bas pour un Shabbat. Donc j'étais assis à côté de mon copain. C'était pendant le Shabbat, il y avait Kriyat HaTorah. Et bon, le gars, entre deux lectures, entre deux montées, il me disait un petit mot. Il dit, des chidushim. Le gars derrière moi, je ne le connais pas. Il se lève, il m'amène à Mishnah Moura, il l'ouvre, il ne parle pas. Il me l'ouvre, il me montre. Assur l'afsik ben à Olim, ouais, interdit de parler entre les gens qui montrent. J'ai regardé le gars, oh, une barbe et tout. Bon. Moi j'ai rien. Je dis au gars, tu vois, Minachamaim, que c'est bien qu'on ait été attrapé dans ce monde, c'est plutôt que dans l'autre monde. Bon, moi je voulais pas parler, mais j'ai honte quand le gars il me parle, je vais lui dire ferme-la, c'est difficile. Bon. Après j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, tu sais qui c'est ce gars-là? Je lui fais non. En fait ce gars-là, parce qu'il y a un rave à rue Pavé qui s'appelle le rave Benichou, d'accord? Et lui, quand il était jeune, il était à Polytechnique, l'école Polytechnique. Il avait Polytechnique, c'est une grosse école, d'accord. Et quand il était là-bas, après il a travaillé dans une très grosse boîte française, et il a commencé à faire teshuvah. Et quand il a fait teshuvah, son chef de service, c'était ce monsieur-là. Et celui-là, c'était un catholique pratiquant. Et quand il a vu un juif avec une tête pareille, il a commencé à lui dire, tu sais, la révélation, et il marchait mort, et il a amené la lumière dans le monde, il voulait l'influencer pour qu'il devienne catholique. Et lui, le pauvre, il connaissait rien. Un truc, un gars pas assimilé, mais debout milé. D'accord. Donc, comme il allait au cours de Rav Rotenberg là-bas, si on le voit à Pavé, Donc l'autre, il disait des arguments. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il allait voir le rabbin, il disait: Rabbi, il m'a dit ça, qu'est-ce que vous dites? Alors lui, il répondait à lui, et lui, il répondait à l'autre. Du coup, c'est l'autre qui s'est converti. L'autre qui voulait le convertir s'est converti. Mais comment il s'appelait ce monsieur? De la foi. Un goy, il s'appelle De la foi. D'accord? J'ai dit: bon. Maintenant, le gars, tu le vois comme ça, maintenant c'est fini. Non seulement il s'est converti, en plus il est devenu Tamitracha, je te dis tout le Mishnah Bourra, la moitié du chasse. Maintenant, il est en Eretz Israël, il est dans un collège. Tu ne peux pas imaginer que le gars, il était ce qu'il était. Ouais, c'est impossible d'imaginer. Mais quand tu vois ça, tu te dis, comment dans un temps tellement court, le gars, il a fait tellement. Alors que le juif, il hésite encore. Est-ce que je mange la pizza chez le goy? Est-ce que je mange le poisson dans le restaurant goy? Toi, tu hésites, mais le gars, il est devenu hassid en un an. Et toi, tu réfléchis encore, est-ce que c'est vraiment assour? Est-ce que c'est assour? Est-ce que c'est pas assour? Et la plage mixte, et la pastou? Et l'autre, il est déjà en train de te dire, attention, on ne parle pas entre les rolim. C'est un problème. Donc je te dis, quand toi, tu te moques du converti, en vérité, c'est toi qui te convertis, c'est toi qui te moques, c'est toi qui devrais te convertir. Parce que regarde ce que lui, il a fait en 2 ans, que toi, tu n'as pas fait en 40 ans. Donc peut-être, ça vaut le coup de faire un programme accéléré, qu'on appelle la conversion, pour que ton judaïsme soit au niveau cohérent de ce que tu es censé être. Donc quand toi, tu te moques du converti... C'est le contraire, c'est que tu dois prendre un modèle du converti, tu dis, regarde ce qu'il a fait. Regardez Onkelos. Il a écrit la traduction du Chumash. Et la Gemara, dans Megillah, elle dit quand il a sorti son. Parce qu'en fait, c'est un Targum Pirouche. Ouais, c'est explication en même temps que traduction. Mais la tête d'Israël, elle s'est mise à trembler. Elle a. Ouais, dans le ciel, on a dit, c'est quoi ça? D'accord. Et c'est un goy. C'est un goy. Vous voyez cette logique ou non? Donc, méfie-toi que tu te moques du converti. Donc je te dis, celui qui se moque du converti, il doit réfléchir pourquoi est-ce que lui, il est remis en cause par le converti pour se sentir obligé de se moquer du converti. C'est qu'en vérité, c'est toi qui as un problème de conversion. C'est toi qui as un problème d'ignorance. C'est toi qui es incohérent. Et c'est pour ça que c'est dérangé. Tire des leçons et grandit. Maintenant, c'est ce qui est marqué ici. Im ou ben girim. Oui, lo yomaro zachor maaseh avotecha. Si quelqu'un, il est un enfant de converti, ne commence pas à lui dire, rappelle-toi tes pères, les Gaulois, qu'est-ce qu'ils étaient. Ouais. Pourquoi? Peut-être que toi, tes grands-parents, c'était des Arabes, de quoi tu parles? Ouais. Donc c'est ça l'idée. C'est la personne, elle arrive à comprendre que si j'ai devant moi un parcours, surtout que nous, on sait qu'à Kol Bideshamayim, tout est entre les mains du ciel, et que les gens que tu as en face de toi, tu dois en tirer quelque chose. Ouais. Et c'est quoi tirer? On a dit, c'est quoi? C'est faire le kavod. Et le kavod, c'est que accessoirement, tu les respectes, mais fondamentalement, c'est que tu as quelque chose à en apprendre. Tu apprends du comportement, tu apprends de la vie, tu apprends des situations. Et ça c'est que si toi, tu ne vas pas faire le kavod à toutes les situations qu'on te présente, ça veut dire que tu ne vas pas tirer l'enseignement de toutes les situations que tu vas vivre, et tu ne vas pas tirer l'enseignement de toutes les personnes que tu vas rencontrer. Or c'est marqué « Ezehu Chacham Alomed Mikol Adam » qui est le sage, celui qui apprend de tout homme. Ouais. Alors il y a deux façons de lire. Soit tu dis, quel est le sage, celui qui a appris de tout homme? Donc tu dis, il n'existe pas un sage dans le monde. Parce que personne n'a appris de tout homme. Moi, il y a des gens d'Ouzbékistan que je ne vais jamais les rencontrer. Donc je ne pourrai jamais être sage. Parce que si tu dis que le sage, c'est celui qui apprend de tout homme. Non. C'est quoi tout homme? C'est tout homme qu'Hachem, il te met en situation de rencontrer. Et de tirer un enseignement. Tu vois quelque chose? Tu l'as vu ça? Tu l'as vu. Tu as vu un comportement? Tu as vu un système? Tu as vu un phénomène? Tu as vu une personne de haut niveau, tu as une personne de bas niveau. Ce que tu vois, tu peux prendre. Maintenant, quand tu fais kavod, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis, c'est pas par hasard que la situation se présente devant moi. Et moi, je dois donner à cette situation le droit d'exister. C'est-à-dire que je dois dire que Hachem, il ne fait rien pour rien. Et la réalité qui est devant moi, elle doit me donner à moi à grandir. Et ça, c'est le kavod. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, il a fait exister tout ce qui existe, et que moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui existent pour le bien et des choses qui existent pour le mal, et quand même Hachem les a fait exister, ça veut dire que de ce mal-là, Hachem il peut en faire un bien. Alors moi, de ce mal-là, moi je peux tirer un bon enseignement. Maintenant, si moi je dis non, c'est rien, soit je dis c'est mauvais, soit je dis c'est pas grave, dans les deux cas je suis influencé. Tu verras que les gens qui critiquent, ils finissent souvent par ressembler aux choses qu'ils critiquent. Compris la logique? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de miroir. Rappelez que Matim, Emet, c'est Matim, d'accord? Donc si moi je suis Emet avec quelque chose, ça veut dire que je suis adapté à la chose. Donc j'accepte, j'ai dit bon, c'est comme ça. La Gemara a dit que Rabbi Yohanan, il connaissait 400 manières de voler. Alpi Alaha. Ouais. Ce qu'on appelle aujourd'hui un expert comptable. D'accord. C'est-à-dire que tu peux voler légalement. Ou les ministres, ils vont voler légalement. D'accord. Mais Rabbi Yohanan, il ne volait pas. Mais il connaissait 400 manières de voler. Comme les gens du Sanhedrin, ils devaient connaître tous les kishufim, les choses de sorcellerie et tout. Tu dis, mais khal de shalom sim sileno l'aleno, comment des neshamot kidoshot? Mais ça n'a rien à voir. La personne, elle sait. Mais elle n'est pas dedans. Mais elle sait que ça existe. Elle sait comment ça fonctionne. Ça veut dire que tu dis, mais il faut avoir l'esprit tordu. Non. Si toi, tu le tires comme un enseignement. C'est comme les agents secrets. D'accord. Les soldats, on ne leur apprend pas à se battre seulement avec leur fusil, leur pistolet. Maintenant, le gars, il est dans un bureau. Eh bien, il va se battre avec un stylo. Après, il va prendre le pied de la chaise, il va tuer quelqu'un. Après, il va prendre un pinceau, il va crever un œil. Tu dis, mais un pinceau, c'est pas une arme de défense. C'est toi qui décides c'est quoi une arme de défense. Avec n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi. Maintenant, ça, c'est dans le Chol. Prends-le dans le Kodesh. D'accord. Avec n'importe quelle situation, avec n'importe quel phénomène, tu peux apprendre. Tu peux grandir, tu peux évoluer. Mais ça, tu pourras le faire seulement si tu es capable, si tu as ce regard du Kavod. Ce regard de faire exister. Ça va? Alors que si toi, tu as déjà fait une sélection personnelle, de dire ça sert à rien, ça sert à rien, donc automatiquement, tu vas perdre peut-être la moitié de ta vie. Et nous, on fait que ça, nous. Nous, on fait que ça. On fait que des spécialisations. Mais non, il faut être ouvert. Comment tu sais où est la solution, toi? C'est pour ça que toujours la Gemara dit « Afilou sikhat roulin sheltani chachamim » Ouais, même les paroles de Chol. Pourquoi? Alors Rachid explique là-bas dans Souka, dans la Mishnah, oui. Il dit pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, même, il va se servir du Chol pour apprendre un Yesod, un secret dans le Kodesh. Il va servir du Chol pour illustrer le Kodesh. Et des fois, il va comprendre le Kodesh en regardant l'illustration que Hachem a fait du Chol, du Kodesh dans le Chol. Ça va? Pourquoi? Parce que le Zohar il dit Kol Aolam Mashalim, le monde entier ne sont que des exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem il a créé le monde physique, qui ne sert à rien, on n'a pas besoin du monde physique. Si on était que des Neshamot en face de Neshamot, on aurait pu avoir exactement les mêmes épreuves, les mêmes questionnements, les mêmes besoins, les mêmes, sans avoir besoin du corps et de la nature et de la matière. Alors à quoi il sert le corps et la nature et la matière? C'est très simple. En fait, c'est comme si je vais t'expliquer une notion, mais qu'elle est trop abstraite. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un croquis. Maintenant, quand je dessine le croquis, toi, tu comprends la notion. Ça va? Donc, le concept, il va ressortir du croquis. Comme le Midrash, il te fait comprendre des choses profondes. Oui. Comme le Zohar, il te donne accès à d'autres lectures. Maintenant, le croquis de la spiritualité, c'est le monde matériel. Kol ha'olam mashalim. On suit ou non? Par exemple, le Rambam il compare la relation entre un homme et Hachem et la relation entre un homme et une femme. Oui? Donc toi, tu vas te servir de la relation que tu as avec ta femme pour réfléchir quelle est ta relation avec Hachem. Et il y a de la passion, et il y a de la remise en cause, et il y a du lekavzochout, et il y a du positivisme, et il y a de la reconnaissance, et il y a de la finesse, et il y a de l'intelligence. Comme tu fais avec ta femme, tu fais avec Hachem. Ou non? Tu dis non, ça n'a rien à voir. C'est une khmara, c'est une imbécile, c'est une idiote. Donc tu fais des averotes parce que tu dis, mais de toute façon, bon Dieu, il s'en fiche, et il n'est pas au courant de tout, et puis je fais ce que je veux, de toute façon, je travaille par derrière. Comme tu fais avec ta femme, comme tu fais avec Hachem. Ouais? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi, tu fais kavod, ouais, et c'est ça le droit, c'est ça le respect, c'est que tu as compris qu'en fin de compte, c'est quoi le kavod? C'est pas seulement des règles de politesse qui sont nécessaires pour régir les rapports qu'on entretient avec les autres. Non! C'est qu'en fait, c'est le décapsuleur du potentiel de toute la réalité qui est devant toi. C'est que si toi, tu ne fais pas kavod à la Gemara, ouais, si toi, au Beit HaMidrash, tu ne fais pas attention de relire quatre fois le texte et de ne pas parler du chol pendant que tu es en train d'étudier la Torah et de ne pas répondre au téléphone. Donc si tu ne fais pas kavod à la Torah, tu ne vas pas comprendre la profondeur de la Torah. Parce que quand tu prends le téléphone, ça veut dire que la Torah et le téléphone, c'est la même valeur. Et comme il n'y a que des bêtises dans le téléphone, donc ta Torah devient idiote. Ça s'appelle que tu es Mekadesh, le Beit HaMidrash. Tu sanctifies le Beit HaMidrash. Tu sanctifies ta Gemara. Tu ne peux pas t'asseoir sur une table où il y a des livres. Mais je ne comprends pas, c'est du papier, c'est du carton, c'est rien. Il n'y a pas de Kiddusha là-dedans, c'est pas une Mezouza, c'est pas un Sefer Torah. Tu te dis, mais comment tu es Mechabed la chose? Quel kavod tu fais? c'est pareil. C'est quoi, quand l'enfant il te parle, tu l'écoutes. Tu écoutes ton téléphone, tu dis vas-y mon fils, je t'écoute. Tu dis non, bah, ça, vas-y, parle, je t'écoute. Tu crois que je suis pas capable de faire les deux en même temps. Je regarde la télé, je regarde mes textos et je t'écoute. Oui, alors quoi, alors, donc tu t'engueules avec ton copain, d'accord, et alors qu'est-ce qu'il t'a fait, d'accord. Tu dis, oh là, Obama, qu'est-ce qu'il a dit, oh, le dollar il a baissé de 3 ans. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu crois que toi, tu l'as écouté? Ouais. Bien sûr que tu as pu entendre ce qu'il a dit, mais tu ne l'as pas écouté. Donc ça veut dire que tu ne lui as pas fait kavod. Donc tu ne lui as pas montré que son existence, elle valait la peine de ton attention. Et ça, c'est très grave. C'est marqué dans le Maharal. Regardez ce qu'il dit. Vechena ona'a ou bitul anefesh keilu oto shekibel ona'a eno nirshav lekloum ve'u davar batel. C'est-à-dire que quand tu te moques de quelqu'un, ou quand tu parles mal à quelqu'un, ou quand tu manques de respect à quelqu'un, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Au bitou la nefesh, c'est l'annulation de la personne, comme si celui qui a reçu la ona, c'est celui que tu as mal parlé, celui que tu lui as fait une remarque qui est blessante, ou celui que tu lui as fait de la peine. Et non, nirchav les clous, ouais, il ne vaut rien, il n'a aucune valeur. Mais où d'avoir batel, c'est une chose qui est annulée. C'est comme si tu prends un steak, ouais. Et tu prends les, vous savez, des marteaux qui se font spécialement pour rendre les steaks, et tu tapes, et tu tapes, et tu le casses, et tu le fracasses, et tu le concasses. Mais c'est un steak! Mais si tu fais ça avec ton fils, il y a un problème. C'est avec ton fils, c'est un steak. Et si tu fais ça avec ta femme, tu dis, mais c'est une idiote, elle ne comprend rien. Et si tu fais ça avec ton mari, c'est pour ça que la Gemara, dans la semaine tête, elle dit, Amar Rav, le'olam yé Adam Zahir be'ona atishto. Toujours un homme doit faire attention au na'atishto. Donc tous ces petits mots en plus, là, ces paroles blessantes. Pourquoi? Shemitor shedim ata metsuya. Puisque son pleur est matsui, ça veut dire il est facile à arriver. Onata krova, donc sa ona'a, elle est aussi proche. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ona'atishto, c'est quoi? Be ona'at varim letzahara. Il va dire des mots pour lui faire de la peine. De toute façon, t'es une idiote, tu comprends rien, mais t'es une khmala. De toute façon, toute ta famille, vous êtes des voleurs. Et la bouffe, c'est pas bon. Et comment tu ranges la maison? Et combien tu dépenses? Et il y en a marre. Et toujours, tu te plains sous prétexte que t'es enceinte, tu vomis. Est-ce que moi, je vomis, moi? Mais t'es pas enceinte. Et alors, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois tous ces petits mots-là, ou les adjectifs qualificatifs en fin de phrase. Espèce de. Tous ces mots-là, ça s'appelle de onatishto, onaat varim le tsahara. Ouais, tu sais très bien, sinon ça veut dire qu'il faut que tu ailles voir un psychiatre, tu sais très bien que ce mot-là, il sert à rien. Et tu sais qu'il vient d'une mauvaise racine chez toi, et tu sais qu'il va faire du mal. Mais tu le dis quand même. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Onaata krova, c'est quoi? Lavo. Pour anout, onaata memaer lavo. La punition pour la souffrance que tu as fait dans le cœur de ta femme vient rapidement. Alors il dit le Maharal pourquoi? Il dit parce que la femme, elle va prendre plus à cœur les paroles de son mari, donc son pleur, il va venir facilement. Parce que c'est quoi les pleurs? Le pleur, Bechia, le Maharal aussi il explique ça, il dit Bechia zebitou la nefesh. Le nefesh, c'est l'intérieur de la personne. D'accord? Maintenant, quand en français on dit que tu es bouleversé, c'est quoi bouleversé? Ça veut dire que tu vas verser. Ça va se verser, ça va se déverser. Maintenant, quand tu es tellement choqué que tu n'arrives pas à parler avec la bouche, ça sort par les yeux. Donc le pleur, il prouve le bitou la nefesh. Maintenant, si toi tu provoques le pleur de quelqu'un, ça veut dire que tu l'as détruit à l'intérieur. Maintenant, tu peux penser que c'est pour son bien. Il y a des gens comme ça s'appellent des nazis, d'accord? Ils pensent que c'est pour éduquer la personne. Maintenant, ici, elle a pris l'exemple de la femme. Ouais, qu'on attaque Krova. Pourquoi? Parce que la personne, elle attend plus. Elle attend beaucoup de son mari. Donc, la souffrance, elle sera 10 fois plus. Maintenant, le mari aussi, il attend de la femme. Donc, quand la femme, elle va insulter le mari, ça va lui faire mal, parce qu'il attend des compliments. Ouais. Et la femme, elle attend des attentions. Donc, quand l'homme, il va être froid, il va être méchant, ça va faire 10 fois plus mal. Et l'enfant, il attend. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, plus la personne est proche, et plus le nisayon de lui faire mal, il est plus facile. Ça va? Ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus attentionné avec les gens qui sont proches de nous que les gens qui sont loin. Parce que les gens qui sont loin, de toute façon, soit par politesse, soit pour préserver ton image de personne correcte, tu vas faire attention. Mais les gens qui sont proches, des fois tu te laisses aller. Parce que les gens, ils confondent intimité et familiarité. C'est une erreur. Tu dois garder le même kavod même si tu es marié depuis 40 ans. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on est proches, on se connaît, on se... Tu vas, bah, tu veux leur faire un bisou, va te laver les dents. Ah, après, tu rentres dans le lit, va prendre une douche. Ah, qu'est-ce que c'est, ah, on est marié. Va prendre une douche. C'est normal. Donc ça, c'est un cavole. C'est un cavole, c'est pareil. Tu présentes un cadeau, tiens, tiens, prends 500 euros, va te faire un kiff. Ah, amen, quelque chose de merhouba que tu as choisi, que tu as... Comme elle, elle te prépare les salades de Shabbat, chacune, chaque chose préparée, chaque chose suite. Peut-être elle peut prendre toutes les salades, les faire dans un seul plat, elle mélange tout, elle les passe au broyeur, elle te dit voilà Shabbat, voilà, voilà Shabbat. Il y a le poisson, la viande et le dessert. Vas-y, de toute façon, dans ton ventre, tout va se mélanger. Je ne crois pas que tu as un estomac pour le poisson, un estomac pour la viande. Alors j'ai tout mélangé, tu prends une paille, tu les avales, allez, surtout n'oublie pas de dire votre Shabbat Kodesh. C'est pas comme ça. Donc si, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait kavod pour le Shabbat. Toi, tu lui fais kavod pour le Shabbat. Vous deux, vous faites kavod au Shabbat. Après, tu fais kavod aux enfants. Après, tu fais kavod. Maintenant, là, c'est extraordinaire. Si vous avez compris maintenant que le kavod, c'est le déclencheur du potentiel qui existe dans la chose. Maintenant, le bizarre, c'est que la Torah, elle a aussi demandé qu'on fasse kavod au Rechaim. Ouais. Parce que tu as vu que Bilam, là, c'est marqué là-bas que Bilam, déjà, on a commencé en retard. Vous êtes bien là ou vous êtes limite? Il y a des infos à quelle heure? Il y a un match ce soir. Donc, je vais finir dans 5 minutes. Le Midrash, Rashi rapporte que Bilam, ouais, c'est que Bilam, c'était l'équivalent de Moshe Rabbeinu pour les Goïms. Parce que l'Agma dans la Zara là-bas dit que les Goïms, ils vont dire, à la fin des temps, ils vont dire oui. Si nous, on avait eu un prophète comme Moshe Rabbeinu, nous aussi, on serait devenus des grands. Alors Hachem, il va dire, mais vous avez eu Bilam. Et on ne voit pas qu'ils ont répondu, ah, tu compares Bilam avec Moshe. Et on dit, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est, pour eux, c'est bien, c'est l'équivalent. Ouais. Donc maintenant, et Bilam, il y a eu ce miracle que l'ânesse, elle s'est mise à parler. Et quand l'ânesse s'est mise à parler, ça fait un kiddush Hachem, qu'à cause de ça, Bilam, il n'a pas maudit les bénis d'Israël, il les a bénis, d'accord. Maintenant, le Midrash, il dit que le lendemain, elle est morte, l'ânesse. Ouais, pourquoi? Parce que si elle continue à parler, alors les gens ils vont aller interviewer l'ânesse, ils vont lui dire Madame Bilam, il paraît que vous n'aviez pas que des relations commerciales avec Monsieur Bilam. Ouais, alors maintenant il va avoir la honte, Bilam. Alors pour éviter que Bilam il ait la honte, alors Hachem il a fait que l'ânesse elle est morte le lendemain. Mais c'est incroyable, parce que l'ouverture de la bouche de l'ânesse, vous vous rappelez qu'elle a été déjà prévue depuis avant la création du monde. Donc, c'est-à-dire qu'Hachem, il a fait Méchané Maasé Bereshit, il a changé pour que ce miracle il arrive. Et ça pourquoi? Pour le bénéfice d'Ebné Israël, pour qu'il soit sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un potentiel de faire un Kiddush Hachem extraordinaire, de sanctifier le nom d'Hachem jusqu'à la fin des temps. Mais Hachem, il a dit, c'est pas grave pour mon kavod à moi, pour peu que Bilam, il n'ait pas l'archoma. Mais qui c'est Bilam? C'est un animal à deux pattes. Il est borgne, il est moche, il est cupide, et avec des mœurs plus que bizarres. Et tu fais kavod. Et oui, tu lui fais kavod. Pourquoi? Parce que encore une fois, nous, on regarde le bien et le mal. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait composer le bien et le mal. Il sait mélanger le bien et le mal pour que ça amène le bien. Maintenant, et dans la composition du bien et du mal, il y a du mal. Et pour que le mal vienne composer avec le bien, il faut que le mal existe. Or, si tu empêches le mal d'exister, le mal ne va pas composer avec le bien. Je ne sais pas si vous me suivez. Comment y aurait le courage s'il n'y avait pas la peur? Comment y aurait le travail s'il n'y avait pas la paresse? Comment y aurait la beauté s'il n'y avait pas la mocheté? Comment y aurait la générosité s'il n'y avait pas la radinerie? Ça va? Donc les deux existent. Maintenant, pour que les deux existent, il faut leur donner le droit d'exister. Donc le kavod que tu fais, ça fait exister les deux. Maintenant, après, c'est quoi? C'est d'arriver à voir la perspective que le bien et le mal, en se mélangeant, ils créent quelque chose d'harmonieux. Et ça, c'est le regard qu'un homme il peut avoir quand il a beaucoup travaillé sur sa personne, ou alors quand il est dans Rola Maïmed, dans le monde de la vérité, où il voit qu'en fin de compte, les choses, elles se rejoignent. Maintenant, si c'est ça, ça veut dire qu'on a fait le kavod au tzaddik, on a fait le kavod au rachat, on a fait le kavod à l'homme simple, on a fait le kavod à l'homme élevé, on a fait le kavod au tzibour. Il ramène le Rav Kamishmolovitz que quand Akadosh Baruch Hu il a voulu quand Moshe Rabbeinu il a voulu, au début de Devarim, il a voulu faire les tochachot, les réprimandes au Bnei Israël avant qu'il rentre en Eretz Israël, oui, avant que lui-même il quitte. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'il a, il n'aura pas dit vous avez fait la faute du Hegel et vous avez fait ça et vous avez fait ça. Qu'est-ce qu'il aura dit? Il a seulement nommé les endroits où ça s'est passé. D'accord? C'est comme si on sait que toi tu as fait une avéra à Londres et tu as fait des grosses avérotes à Berlin. Ah, tu te rappelles Berlin? Tu te rappelles Madrid? Toi tu meurs de honte. Ouais. C'est pareil. Et bien ici, c'est, il dit Rashi, Shemana kan kol amekomot shi'ichisu ba'en lifnei makom. Moshe Rabbeinu n'a fait que nommer les endroits où ils ont mis Hachem en colère. Ve'iskiran beremez, et il les a mentionnés par allusion, mipne kevodo kevodan shel Israël, pour le kavod de Bnei Israël. Ça veut dire que même le tzibour, ouais, tu as une obligation de faire le kavod. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit que le kavod c'est le droit d'exister, ouais, et que chaque fois que tu fais kavod à quelqu'un ou à quelque chose, ça fait exister la chose. Donc quand tu fais le kavod au rav, tu vas faire exister sa Torah. Quand tu fais le kavod aux enfants, ils vont se réaliser pleinement. Quand tu fais kavod à ta femme, elle va t'apporter tout ce qu'elle peut t'apporter. Quand tu fais kavod à ton mari, il va pouvoir son rôle de mari, son rôle de père, son rôle d'homme, parce que tu lui fais le kavod. Quand tu fais le kavod à ton produit, il va t'amener la part à ça. Quand tu fais le kavod à ton magasin, quand tu fais kavod à ton employé, il va donner le meilleur de lui-même. Mais alors, si tu fais kavod à Hachem, oui, parce que c'est marqué l'obarati et l'alérodi, Hachem il dit, je n'ai créé le monde que pour mon kavod. Alors, tu as deux manières de comprendre. Soit tu veux dire que c'est de la gava, que Hachem il a dit, mais moi tout ça je l'ai créé pour mon kavod. Et c'est pas grave, parce que Hachem c'est le seul qui a le droit de la gava, qui ga oga. Ouais, c'est le seul. Parce que c'est quoi la mauvaise gava? C'est quand quelqu'un il n'est pas en accord avec lui-même. Quand quelqu'un il est plus que lui-même ou moins que lui-même, ça c'est l'orgueil interdit. Mais Hachem, il n'y a pas plus lui-même que Hachem. Donc c'est pas de l'orgueil pour lui, c'est l'orgueil permis, d'accord? C'est pas l'orgueil négatif. Mais deuxièmement, c'est quoi l'irvodi? C'est que Hachem lui-même, dans son essence, n'a pas besoin de nous. D'accord? Maintenant, quand Hachem il a créé le monde, il a créé, entre guillemets, une interdépendance entre lui et le monde. Donc ça veut dire que Hachem, il va faire exister le monde, mais l'homme, il va faire exister Hachem. Parce que par sa conscience d'Hachem, par sa croyance en Hachem, par son bitachon en Hachem, sa confiance en Hachem, par sa perception d'Hachem, par sa conscience d'Hachem, par l'évolution qui va évoluer en fonction d'Hachem, l'homme va faire exister Hachem. Donc ça s'appelle l'irvodi, c'est pour mon kavod. Mais pas dans son intérêt à lui. Ouais, c'est comme si moi j'ai donné à mes enfants l'occasion de me faire du bien. C'est pas pour moi, c'est parce que eux je leur ai appris là. C'est pour que eux ils puissent appliquer la loi de la reconnaissance. Moi j'ai pas besoin de son argent, mais lui il me fait un effort, il dit papa je t'ai acheté ça. Je dis merci mon fils. J'ai pas besoin. Il dit papa ça me fait plaisir. Alors si ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Comme on dit que le Chazon Ish, jamais il acceptait de prendre des cadeaux. Ouais. Et un jour il y a une femme qui est venue, elle a dit voilà, vous m'avez fait telle et telle bracha. Elle a donné une enveloppe. Et le Rav, il a accepté. Les élèves, ils sont tournés, ils ont dit, mais Rav, on vous a jamais pu vous offrir une cacahuète. On n'a jamais pu vous offrir une cacahuète. Et vous avez accepté un cadeau de cette femme. Comment c'est possible? En plus, en public et tout. Il a dit, cette femme, elle est veuve. Elle est seule. Et à l'époque, elle a eu besoin. Et moi, je l'ai aidée. Maintenant, elle veut. C'est tellement un kavod pour elle de pouvoir donner quelque chose au Chazon Ish. C'est pas elle qui m'a donné, c'est moi qui lui ai donné. Moi, je lui ai donné l'occasion de me faire kavod. Alors, elle, ça, c'est un hesed que je lui ai fait à elle. Parce que moi, j'ai pas besoin, c'est elle qui a besoin. T'as compris cette logique? Donc, cette idée-là, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, la notion du kavod, c'est quoi? C'est le droit d'exister qu'on a donné à tout le monde. Maintenant, ce droit-là, c'est pas un principe, c'est pas comme une règle, comme une halakha qu'on vit tous les jours. C'est le fondamental du monde. C'est que le fonctionnement du monde, il est basé sur le kavod. Puisque tout le monde, il n'existe que par rapport au fait que c'est la rencontre entre le fait de celui qui veut exister ou qui doit exister ou qui peut exister et celui qui le fait exister. Maintenant, toutes les interactions, des milliards d'interactions qui existent entre les personnes, entre les phénomènes, entre les situations, entre l'histoire, entre l'homme et l'enseignement, entre l'homme et la Torah, tout ça c'est quoi? Ça s'appelle l'obarati et la lirvodi. Pourquoi? Parce qu'un homme, en vérité, quand il va faire exister l'autre, il va faire exister Hachem. Et un homme, quand il va faire exister sa femme, il va faire exister Hachem. Et un homme, quand il va voir le bien dans une situation, il va faire exister Hachem. Et un homme, quand il va voir que la punition, elle s'applique, il va faire exister Hachem. Et quand il va voir que la récompense, elle s'applique, il va faire exister Hachem. Donc ça s'appelle quoi? Ça veut dire que tu fais kavod Hachem. D'accord? Et ça s'appelle l'irvodi. C'est ça le kavod. C'est-à-dire que cette capacité à faire exister, en fin de compte, elle va... C'est des milliards de faisceaux d'existence qui sont là pour faire exister Hachem. Maintenant, si Hachem existe et qu'on a fait exister Hachem, donc c'est sûr que celui qui a fait exister Hachem, il existe. Ça va? Avec Baruch.